Si la violence peut-elle être légitime, mais je vais commencer par vous présenter un certain nombre d'images. Rassurez-vous, il n'y aura pas que de l'art, vous allez voir, il n'y aura pas que de l'art. Donc ça, je vous montre une fameuse peinture, le retable d'Isenheim, qui est à Colmar, de Grunewald, parce que c'est une crucifixion, mais... Bon, l'image ne peut pas vous dire grand-chose, et si vous allez un jour à Colmar, il faut absolument que vous voyez cette chose, cette œuvre. Il y a une représentation particulièrement réaliste de ce qu'il advient aux êtres vivants lorsqu'ils ont été torturés et lorsqu'ils ont été crucifiés. D'ailleurs, la religion chrétienne est une religion qui, dans son iconographie, a une iconographie très violente, hein, je veux dire, et encore plus violente, je dirais, au fur et à mesure qu'on monte dans les pays du Nord. Quand vous visitez les musées allemands, vous voyez que les représentations des crucifixions ou des martyrs sont d'une extrême violence. Alors, image suivante, parce que j'ai essayé d'agrandir un petit peu. Ah non, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, la suivante passe pas. Bon, alors passez la suivante. Bon, là, du coup, on passe aux documents actuels. Ça, c'est des documents, une photographie après un débarquement pendant la guerre du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont reconquis une à une toutes les îles du Pacifique avant de bombarder le Japon et d'imposer un traité de paix au Japon. Des photographies de marines américains qui ont été tués pendant le débarquement. Documents noirs et blancs, hein, du photojournalisme. J'indique que c'est des documents qui, à leur époque, étaient des documents qu'on ne montrait pas, hein, pour le moral de la nation, pour ne pas montrer que des GI pouvaient se faire tuer. C'était des documents qui n'étaient pas montrés. Aujourd'hui, on a une tolérance envers les images de la violence qui est beaucoup plus grande qu'elle l'a été par le passé. La suivante, ça justement c'est une affreuse image, il y a pire, hein, il y a bien pire. Hein. Je vous montre ces images pour vous montrer que nous avons rapport souvent à la violence à travers les images, à travers les films, malheureusement de temps en temps aussi à travers la violence réelle, mais que ce que je veux vous dire, et je vous demande d'y être très attentif, c'est qu'en réalité les vraies images de la violence, pratiquement on ne les montre pas. Hein. Ça c'est le maximum qu'on peut montrer dans le genre gore, comme vous dites, mais les vraies images de cadavres, de gens qui ont été explosés, déchiquetés, etc., sont littéralement immontrables. Et ça c'est important parce que quand on réfléchit sur la violence, on pense toujours en termes d'images de la violence, parce qu'elles sont omniprésentes dans notre société, et on ne fait pas attention au fait que la vraie violence, la violence réelle, elle est presque irreprésentable. Alors là, évidemment, c'est pendant la guerre d'Irak, c'est évidemment c'est des Irakiens, des insurgés irakiens qui ont été tués et déchiquetés. Une chose aussi qui est importante, que je vous indique, ce n'est pas directement dans mon sujet, mais ça peut vous intéresser, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle le droit à l'image, y compris pour les gens qui sont morts. Et on n'a pas forcément le droit de montrer les images de gens dans des états pareils. Il se trouve que très souvent, dans nos sociétés, ce n'est pas pour mettre en cause nos sociétés, non. Ceux dont on montre les images, c'est ceux qui sont les vaincus ou qui sont les plus faibles, ou je dirais même tout bêtement, qui n'ont pas d'avocat. Hein. Mais il est très difficile de montrer des vraies images de la violence, aussi pour des questions de dignité et de respect des cadavres, de respect des morts, etc. La suivante, bon là on la verra pas mal, c'est une fouille à l'intérieur d'une maison. Il y a eu sûrement, avec une petite fille, un GI la nuit. C'est pour montrer ça plutôt la stupeur de la violence, si vous voulez, l'horreur, pas forcément mort, il peut y avoir juste blessure, mais la stupeur. La suivante, bon ça c'est typiquement une belle image, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est esthétiquement c'est une belle image, c'est un blessé grave américain qui est transporté rapidement sur une civière pour une évacuation. Ça c'est des images, des dégâts, hein, des dégâts de la violence. Ce qui est très curieux, bon, n'est pas mon sujet, c'est que très souvent, ces images sont des images qui ont une valeur artistique. Ça donne des choses assez bouleversantes et très construites, même si le photographe n'a pas construit sa photo. Alors là, je vous montre maintenant des coupures de presse, parce que ça, c'est d'une certaine manière plus intéressant. C'est des choses que j'ai découpées dans les journaux. Ça, c'est pour... Il y a eu, en 2001, puisque j'ai noté, le 28 septembre 2001, dans un canton suisse, dans un parlement à Zoug, il y a un déséquilibré qui est rentré avec une arme et qui s'est mis à tuer des gens dans le parlement. Et ça, c'est une très belle image parce qu'elle montre très bien aussi l'effet que produit la violence. Si vous voulez. Bon, il y a un type qui est blessé, il y a un type derrière qui est complètement atterré, littéralement atterré. Il y en a un qui est, une qui est très touchée avec une personne qui l'assiste. C'est cette sorte d'horreur et aussi de désorganisation complète, de retour à l'humanité la plus banale qu'on trouve dans la violence. Je vous dis ça parce que, encore une fois, on est dans une société qui stylise beaucoup la violence, notamment au cinéma, notamment dans les jeux vidéo. Mais la réalité de la violence, ce n'est pas un jeu vidéo. La réalité de la violence, ce n'est pas du cinéma. Encore une fois, je vous dis, les vraies images de la violence, la plupart des temps, on ne peut pas les montrer. La suivante. Alors ça, c'était aussi quelque chose que j'ai pris. C'était en 2000, vous voyez. C'était des émeutes en Indonésie. Et comment la police se déchaîne. Ça, c'est sur la violence de déchaînement. Parce que je vous expliquerai qu'il y a une violence organisée. Comme quand il y a une charge de police, par exemple, pour disperser les manifestants, mais il y a aussi une violence de déchaînement. C'est-à-dire quand les gens obéissent plus aux consignes, obéissent plus aux gestes automatiques, aux automatismes qu'on leur a appris, et qui font n'importe quoi. Alors il suffit qu'il y ait un photographe à ce moment-là pour que l'amplification du comportement devienne absolument scandaleuse. Ça, c'est dans un combat de free fight, vous devez connaître ça. C'était en 98, et bien c'est un combat où finalement celui du dessus a tué celui du dessous, tout simplement. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on voit très curieusement aussi la haine. La haine, on la voit très bien sur le boxeur russe. Il y a des faciès de haine qui ne trompent pas. Suivant. Bon, celle-ci, je l'ai mise pour m'amuser, parce qu'elle est tout à fait drôle, celle-ci. Elle est de 2001, au moment où il y avait des problèmes au Kosovo et en Macédoine. Alors, parce que je trouve que c'est deux visages de la violence assez, assez intéressantes. Du côté gauche, vous avez un milicien albanais. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une brute épaisse. Bien armé, etc. Et puis à droite, vous avez un capitaine des forces spéciales anglaises qui lui représente la violence civilisée. Je trouve que cette image est visiblement la violence civilisée, regarde la violence brutale avec une certaine condescendance et une certaine. Mais de l'inquiétude aussi. Voilà, la suivante, c'est sur la collusion entre la technologie et la violence. Ça, c'est une collusion rudimentaire. C'est une exécution capitale en Iran en 1997. Bon, on ne construit plus de potence, on va chercher une grue. Et puis, utiliser tout ça pour ça. Voilà, c'était mes images de départ. Les documents de faits divers sont souvent intéressants parce qu'ils sont grossiers, si vous voulez. Et ce qui, à la différence, si vous pouviez revenir aux images d'Irak, voilà. Les images de photographes, avant de paraître dans les journaux, ce sont toujours des images qui sont très belles esthétiquement. Une fois qu'elles passent dans les journaux, elles passent à travers les techniques de reproduction. Bon, revenez à la dernière. Elle passe dans les techniques de reproduction, c'est-à-dire il y a le grain, il y a le flou, etc. Et c'est ça aussi qui leur enlève une partie de leur horreur. Je veux dire, les modes de reproduction de la violence, les modes médias de reproduction de la violence, lui enlèvent une partie de son horreur, tout simplement parce que l'image, il y a un grain, elle est en noir et blanc, elle est mal reproduite, les contrastes ne sont pas parfaits, etc., etc. Voilà, donc je vais venir maintenant à mon sujet. Après cette... on va passer à la suivante. Après, donc je ferai la chose suivante, des définitions de la violence, pour commencer, et puis ensuite une réflexion sur à quelles conditions est-ce qu'elle est et qu'elle est légitime. Je suis un philosophe sérieux, je vais traiter mon sujet. Hein, et traiter mon sujet. Donc, sur les définitions de la violence. Alors, le problème... Il suffit que vous, non pas que vous lisiez les journaux, mais que vous y réfléchissiez, en discutiez entre vous. Le problème, c'est qu'on appelle très facilement violence. Hein, ne serait-ce que, par exemple, il y a les coups, il y a les blessures. Par exemple, dans le code civil, il y a des violences qui sont caractérisées comme, par exemple, des actes d'intimidation sur autrui, des paroles. Des insultes très fortes, des menaces, ou même des menaces de gestes sont catégorisées comme des violences. Je me souviens avoir lu dans le temps que, c'était il y a longtemps, que quelqu'un avait été un jour condamné pour violence, tout simplement parce qu'il avait secoué l'échelle sur laquelle quelqu'un était grimpé sans le faire tomber. Mais c'est des actes de violence. Donc on appelle violence des choses extrêmement différentes. Il y a aussi de la violence psychologique, on dit souvent. Il y a de la violence verbale, il y a des insultes, violence verbale. Pensez à ce que Materazzi a dit à Zidane, hein, par exemple. Puis, vous voyez, c'est un cas typique où une agression verbale se transforme ensuite, induit une agression physique. Materazzi a dû lui dire des choses, lui a dit, semble, dit-on, des choses tout à fait désagréables sur l'honneur de sa sœur, et Zidane réplique par un coup de tête, qui d'ailleurs est un coup de tête largement théâtral. Donc, c'est très difficile de définir la violence. Alors, les définitions communes, non, on reste sur la première, c'est agir ou faire agir quelqu'un contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Si on vous plante un couteau sous le nez sans même vous agresser, vous blesser avec pour vous demander une cigarette, ben c'est un cas de violence. C'est-à-dire qu'on vous force à faire quelque chose contre votre volonté en employant la force ou l'intimidation. Hein, on peut aussi se mettre à trois pour vous tenir et vous prendre votre téléphone portable. Bon, c'est l'acte par lequel s'exerce la violence, une violence des coups et blessures, ça c'est l'acte. Mais la violence, c'est aussi la violence des sentiments. La violence des sentiments, la violence d'une passion, la violence même d'une émotion. Hein, vous pouvez sentir une émotion très violente. Par exemple, je ne sais pas, mais sur certaines des images que je vous ai montrées, si je vous en avais montré des pires, vous auriez certainement ressenti une émotion violente. Bon, je vous ai, encore une fois, je vous ai épargné les images pires. Hein. C'est la force irrésistible d'une chose, quand on dit la violence d'une tempête, hein, la violence de la vague, la violence d'une tempête, la violence de la violence d'un cours d'eau qui déborde, par exemple, ou d'un tsunami, et puis le caractère brutal d'une action. Alors, tout ça pour vous dire que, d'abord, on peut employer le mot violence dans des cas très différents, et on ne sera pas forcément d'accord. On ne sera pas forcément d'accord, tout simplement parce que, par exemple, je donnerai un exemple, si vous êtes un sportif, disons, de compétition, vous êtes habitué à un niveau de violence qui est assez élevé. Si vous êtes un bon joueur de rugby, vous êtes habitué à un niveau de violence qui est assez élevé. Donc il y a des choses qui, pour vous, qui êtes habitué à un niveau de violence virile, comme on disait dans le temps, qui pour vous est normal, qui à d'autres vont sembler la pire des violences et la pire chose. Hein. Vous pouvez être un joueur de football tout à fait viril, mais d'autres diront que vous êtes brutal, mais vous pouvez être tout simplement viril, même en respectant les règles, mais en vous imposant physiquement. Donc, il y a très souvent, vous aurez des divergences très fortes. De la même manière, si vous êtes, je pense à la violence verbale, par exemple, si vous n'êtes pas vraiment concerné par les insultes, bon, quand quelqu'un vous traite de connard, vous pouvez penser qu'à la limite, c'est lui, hein, lui que ça regarde. Mais vous avez des cultures machistes, où vous avez des groupes où il y a un fort sens de l'honneur, où s'il suffit qu'on vous traite d'une insulte pour que la réaction obligée que le groupe vous oblige à avoir est une réaction de violence physique. Vous voyez ? Donc il va y avoir des différences d'appréciation très fortes. Et donc tout ça pour dire, c'est le bas de ma diapositive, c'est que ce qu'on appelle violence, c'est d'un côté des faits, et ça je vous en ai montré avant dans les images, et puis d'un autre côté, c'est des manières d'être. C'est des manières d'être de la force. Et il y a des faits, des choses, des actions, c'est ça qu'on appelle des violences, et puis il y a des manières d'être de la force. Alors deuxième suite des diapositives. Bon, disons que ce qu'on a plutôt tendance à appeler violence, c'est plutôt des comportements et des actions physiques, et avec des dommages physiques. Hein, c'est-à-dire, si vous lisez les petites chroniques de faits divers, vous voyez que les gens ont eu 3 jours... On mesure en fait les dommages très souvent aux incapacités de travail. Hein, si vous faites tabasser et que vous avez 30 jours d'incapacité de travail, c'est que vous avez été salement amoché. Hein. Si vous avez 3 jours d'incapacité de travail, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Voilà à peu près, si vous voulez, c'est la question des dommages physiques. Bon, mais encore une fois, tout ceci va être interprété en fonction d'un certain nombre de normes, en fonction d'un certain nombre de normes ou de valeurs que vous avez. Et les normes et les valeurs varient beaucoup historiquement et beaucoup culturellement. Alors historiquement, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont été, par la force des choses, incomparablement plus brutales et plus violentes que les nôtres, hein, tout simplement parce que la vie était littéralement d'une dureté pas possible. Il existe des livres d'histoire passionnants sur Paris au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. C'était une ville où la vie était d'une violence inouïe. Hein. Il y avait continuellement des bagarres, continuellement des agressions, il y avait très peu de police. La police se perdait dans les dédales de tout ça, hein, dans les dédales, parce que ce n'était pas le Paris actuel, c'était le Paris avant Haussmann, avant la destruction et le remodelage. Et les gens s'agressaient pour un oui ou pour un non. Hein. De la même manière, la nuit, vous ne sortiez pas. Hein. Il n'était pas question de sortir la nuit. Les gens qui sortaient la nuit sortaient avec, un peu comme les oligarques aujourd'hui, avec leur garde du corps. Hein. Simplement, au lieu d'avoir 3 gardes du corps et une limousine, ils avaient 30 domestiques et 3 carrosses, et c'était un déplacement en bande, parce qu'une personne qui se baladait toute seule dans Paris avait toute chance de se faire agresser, dépouiller, et puis c'était fini. Hein. Donc, historiquement, vous avez des sociétés qui sont incomparablement plus violentes, qui ont été incomparablement plus violentes. Et culturellement aussi. Culturellement aussi, vous avez des sociétés, c'est-à-dire que là, je ne parle plus dans le temps, mais je parle dans la diversité des sociétés, vous avez des sociétés ou des sous-groupes de sociétés qui ont des normes de rapport à la violence tout à fait différentes des nôtres. Alors, par exemple, vous avez ce qu'on appelle, vous avez un certain milieu sportif où la relation à une violence organisée est tout à fait différente de notre relation à nous. Mais vous avez aussi des cultures nationales de la violence qui sont très différentes. Il y a une constante depuis des temps immémoriaux, c'est la violence au Mexique. La violence au Mexique est extrêmement étonnante. Le taux d'homicide au Mexique n'a absolument rien à voir avec chez nous. Il y a une violence au Mexique qui est très étonnante, très élevée, et donc du coup, on est habitué. On ne trouve pas ça bien pour autant, mais on est habitué, il y a une sorte de fatalisme devant l'assassinat, la mort, l'enlèvement, des choses comme ça, parce que c'est une culture qui est très violente. Alors, elle a été un peu plus récemment avec les narcos et tout ça, vous avez entendu parler, mais c'était déjà vrai dans les années 1930, les années 1910, c'est une culture de la violence où l'homicide est très fréquent, et il y a des sociétés comme ça qui sont très violentes. La société albanaise, je vous ai montré un Albanais l'autre jour, la société albanaise traditionnelle est une société qui est très violente à cause de pratiques de vendetta qui font partie du régime des clans en Albanie, et du coup le taux de violence est très élevé. Donc les normes varient, c'est-à-dire que nous sommes habitués normalement à vivre dans des sociétés qui sont des sociétés relativement pacifiées et pacifiques, Il y a des différences hein, selon les régions, selon les villes, selon les banlieues. Mais dites-vous bien que historiquement, ça n'a pas été le cas et que culturellement, vous avez des cultures de la violence. Moi, par exemple, je vous dirais franchement, je ne vais plus au Mexique. Hein, je ne vais plus au Mexique parce que la situation ne s'est jamais améliorée. Alors, par exemple, le Brésil, il y a 20 ans, était extrêmement difficile à vivre et très dangereux. Mais le Brésil s'est beaucoup amélioré. Le Mexique, c'est pas amélioré du tout. Et j'avoue que j'ai plus envie, si vous voulez, de passer ma vie dans des lieux protégés, soit de risquer de me faire enlever par un faux taxi dès que je demande un taxi. Hein, je veux dire, donc. Voilà. Mais pensez qu'il y a cet élément de norme. Hein, d'habitude. Un Mexicain, par la force des choses, il arrive à vivre là-dedans. Hein. Il y a des choses qu'il trouvera normales que moi je trouve pas du tout normales. Une anecdote, c'était il y a 10 ans, oui, à peu près 10 ans, dans Mexico City, dans une zone très calme, je suis invité chez des amis à une soirée et je regarde sur le plan, c'était à 4 blocs. 4 blocs, c'était 800 mètres, hein, pas plus. Bon, j'y vais à pied. Et quand j'arrive, tout le monde me dit mais t'es complètement fou. Il faut absolument jamais aller à pied la nuit traverser 4 blocs. Tu aurais dû demander un taxi de telle compagnie spécialisée dont on est sûr qu'elle n'est pas fausse, etc., etc. Voilà, pour vous donner une idée des normes de la violence. La suivante. Alors, je dirais qu'il y a deux. C'est pour finir de poser ma problématique. Il y a deux définitions possibles de la violence. Quand on veut être vraiment très précis, vous avez soit une définition stricte par la violence physique. Et il y a un démographe français, qui est un excellent démographe, qui s'appelle Jean-Claude Chenet, qui a écrit une histoire de la violence dans les années 80, où il s'est intéressé uniquement à la violence physique, aux meurtres, aux coups, aux blessures, etc., à tout ce qui est effectivement constatable. Et il a tiré, ce livre est toujours en livre de poche, hein, vous pouvez toujours le trouver, il est toujours en collection plurielle, et il a établi qu'effectivement, dans nos sociétés, la violence diminue, la violence physique diminue. Hein. Moi, dans les premiers livres que j'ai écrits sur la violence, j'avais essayé de faire une définition plus large de la violence, qui ne soit pas seulement physique, et je disais qu'au fond, la violence, ça consiste à porter atteinte à d'autres individus dans leur intégrité physique, bon ça tout le monde s'en est d'accord, dans leur intégrité morale. C'est vrai que vous pouvez traiter les gens par le mépris, vous pouvez les traiter comme des sous-êtres humains, etc. Et vous, c'est une violence de porter atteinte à l'intégrité morale, et même quelquefois dans leur possession, dans leur participation symbolique et dans leur participation culturelle. Hein. Je vous rappelle, par exemple, pensez si vous êtes extrêmement religieux, si vous êtes extrêmement religieux, quelle que soit votre religion, une atteinte à vos symboles religieux, vous allez la vivre comme une violence extrême. Donc moi, j'ai élargi la définition, donc il y a violence lorsqu'il y a atteinte soit à l'intégrité physique, soit à l'intégrité morale. C'est ce qu'on appellerait les violences morales aujourd'hui, soit aux possessions. Je ne vous souhaite pas de retrouver votre appartement entièrement cambriolé. Hein. C'est une violence incroyable quand vous retrouvez tout mis à sac, hein, que tout a été fouillé, que tout a été démoli. C'est invraisemblable. Vous sentez ça comme une violence, alors que vous êtes là indemne et que l'assurance va en partie vous rembourser. Soit une atteinte aux participations symboliques et culturelles, hein, l'atteinte à la religion, l'atteinte à la culture. Regardez tout le bruit qu'on fait, par exemple, quand quelqu'un s'en prend un tableau dans un musée. Hein, il y a des gens qui s'en prennent dans un tableau. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Joconde, maintenant, elle est derrière 3 vitres par balle, elle est entièrement... Mais c'est vrai que quand les gens s'en prennent au chef-d'œuvre de l'humanité, ou à ce qu'on pense des déchets de l'humanité, les gens perçoivent ça absolument comme une violence. Hein. Voilà. Alors, maintenant, avant de poser la question sur ce qui est légitime ou pas, les aspects de la violence, aujourd'hui, dans notre société... Hein, alors, je dirais qu'elle est, est technologisée. La violence est éminemment technologique aujourd'hui. Hein. Ça va depuis le taser des policiers jusque aux lunettes de visée nocturne des soldats en Irak, jusqu'aux aides laser pour le pointage des cibles. La violence est aujourd'hui une violence fondamentalement technologique. Technologique, avec des progrès considérables dans la technologie. C'est une des choses qui... c'est un des domaines où on fait le plus de progrès, dans la technologie de la violence, et aussi la technologie de la contre-violence. Parce que il y a les deux choses. C'est-à-dire que, comme il y a toujours des escalades, on essaye de répondre aux innovations par d'autres innovations technologiques. Donc, la violence aujourd'hui, elle est fondamentalement technologique, et toutes sortes de technologies. Je pense d'ailleurs que certains cas aujourd'hui d'irruption, de viol de la vie privée par ordinateur, par des hackers, ont quelque chose d'une violence technologique. Ensuite, la violence aujourd'hui, elle est éminemment professionnalisée. Professionnalisée. C'est pas un truc d'amateur, la violence. Alors, il y a bien sûr les amateurs, vous pouvez toujours régler vos comptes comme ça à la sortie, plus ou moins comme des amateurs, mais j'y remarque souvent que même vous êtes assez professionnalisé. C'est-à-dire, vous avez fait des techniques de combat, vous avez regardé des films, vous êtes pas mauvais, je veux dire, c'est pas les batailles d'ivrogne du passé, je veux dire, c'est nettement déjà plus sophistiqué. Mais il y a une professionnalisation de la violence. C'est-à-dire que c'est une affaire spécialiste, que ce soit des militaires, que ce soit des policiers, que ce soit même des délinquants. Il y a une professionnalisation de la violence. Bon, troisième dimension, elle est médiatisée. Ça, elle est médiatisée, tout simplement parce que non seulement il y a des médias, mais que nous avons des moyens. Je veux dire, s'il y a une... J'ai un vieux téléphone portable, parce que moi je ne m'intéresse pas aux derniers trucs des écrits, mais il a quand même un appareil photo. Et s'il y a une bagarre, je peux la photographier. Et puis après, je peux me prendre la vidéo, après je la mets sur Dailymotion, et puis c'est bon. Je veux dire, elle sera forcément médiatisée. Et si en plus c'est une affaire très grave, alors elle sera super médiatisée par TF1, par les chaînes de télé, etc. Donc il y a la médiatisation. Et puis, dernier point. Ça, faites-y bien attention, elle fait l'objet de médiation. Médiation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'on divise le travail. On divise le travail, c'est-à-dire que ce n'est pas fait tout par la même personne. Et que notamment, beaucoup de choses sont faites à distance, sont faites à travers des relais, sont faites à travers des organisations. J'étais l'an dernier, j'ai fait un long voyage aux États-Unis pour faire une tournée de conférences, et j'avais demandé aux alliances françaises qui me recevaient de m'envoyer dans des endroits aux États-Unis que je ne connaissais pas. Et donc, je suis allé dans des petites villes que je ne connaissais pas, et notamment, je suis allé à Tampa, en Floride. Je vous conseille pas d'aller à Tampa, en Floride. Il n'y a vraiment rien à y faire. Simplement, à Tampa, vous avez un des centres de commandement les plus sophistiqués de l'armée américaine et de l'OTAN pour les opérations en Irak et en Afghanistan. C'est-à-dire qu'à Tampa, jour et nuit, vous avez des gens qui suivent des drones, c'est pour ça que je parle de médiation, des gens qui suivent, comme dans un jeu vidéo, des drones, et puis qui appuient sur le bouton quand il y a une cible qui est intéressante et qu'ils ont l'autorisation. Ça, c'est l'autre aspect de la médiation, qu'ils ont l'autorisation de tirer, parce qu'ils ont des conditions d'engagement qui sont très strictes. Et j'étais très étonné de rencontrer des militaires français qui faisaient partie du commandement de l'OTAN, qui étaient venus à ma conférence, parce qu'on s'embête tellement à Tampa qu'ils étaient venus à ma conférence, que c'était des militaires français qui étaient dans ce commandement opérationnel et qui faisaient la guerre en Afghanistan depuis Tampa, en Floride. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est ça que j'appelle la médiation. C'est-à-dire que il y a toujours des gens qui sont sur le terrain, mais il y a aussi des gens à distance qui prennent des décisions, qui voient des images, analysent des choses, etc. Voilà. Alors, je m'achemine vers le questionnement. Usage et signification de la violence, c'est ça qui va être la grille de lecture pour savoir si c'est légitime ou pas. Je dirais que vous avez une première sorte de violence que nous connaissons tous et qui est, je dirais, extrêmement saine. C'est la violence expressive de réaction et de révolte. Réaction, quand vous êtes face à une injustice, surtout si c'est une injustice qui vous touche à vous, eh bien vous piquez votre crise. Hein? Et quelquefois, vous piquez votre crise d'une manière très très violente. En général, ça se traduit par le caprice de l'enfant, la personne qui casse tout ou qui balaye la table dans un geste de colère. C'est ce que j'appelle violence expressive de réaction et de révolte. Quelque chose vous révolte et vous n'y tenez pas, vous réagissez et vous réagissez de manière violente. Ça, je dirais que c'est une violence qui est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme elle est. C'est une réaction humaine naturelle. C'est que nous réagissons à certaines atteintes, un petit peu comme un animal qu'on accule dans un coin. Nous réagissons d'une manière, je dirais, explosive et instinctive. Hein. Ça peut être tout simplement par de la rage, hein, parce que vous pouvez être impuissant, mais vous entrez dans une crise de rage, absolument. Ça, c'est la violence expressive de réaction. Et puis, deuxièmement, vous avez une violence qui est une violence instrumentale. Instrumentale, c'est que vous utilisez la violence pour arriver à certaines fins. Si vous vous pointez dans une succursale de la BNP avec une arme ou avec une voiture bélier ou avec une pelleteuse, vous utilisez la violence de manière instrumentale. Vous avez décidé de gagner un peu d'argent. Et vous dites, une des manières d'en gagner, c'est d'aller le voler là où il est, et donc je vais utiliser des moyens violents. Ça, c'est la violence instrumentale. Hein, la violence instrumentale, mais c'est que de la même manière que quand vous donnez une claque à quelqu'un pour le faire tenir tranquille, bon, on n'a plus le droit maintenant, mais ça arrive avec un gamin totalement insupportable, c'est une violence instrumentale, c'est pas seulement une violence de colère. Bon, alors, maintenant la légitimité. On a tous les éléments maintenant pour répondre à la question, est-ce que la violence est légitime? Alors je distinguerai deux choses, il n'y en a pas trois, hein. Il n'y a pas trois choses. Il y a légitimité juridique et légitimité éthique, ou morale si vous préférez, juridique et éthique. Alors la légitimité juridique, là on va passer à la diapo suivante, légitimité juridique, ben, c'est très simple, la violence n'est jamais légitime juridiquement. Le droit n'autorise pas la violence, sauf, hein, le droit n'autorise en aucun cas la violence, sauf dans trois cas. Faites bien attention à ces trois cas, parce qu'il faut que vous y pensiez. C'est un, la légitime défense. Bon, ça c'est tous les penseurs et tous les juristes l'ont toujours dit. Quand l'homme est acculé, donc du coup on retrouve la violence expressive, là, quand vous êtes acculé et que votre vie même est menacée, eh bien vous avez le droit de vous défendre par la violence. Simplement, j'ai mis entre parenthèses, et c'est de plus en plus appliqué, simplement, vous devez réagir, la légitime défense doit être proportionnelle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'en grande partie, la légitime défense est interdite. Hein, parce que si quelqu'un rentre chez vous armé la nuit pour vous cambrioler et que vous le tuez, eh bien, vous serez poursuivi et il y a toute chance que vous soyez condamné. Et vous serez condamné tout simplement parce qu'on vous accusera d'avoir exercé une violence de légitime défense, mais disproportionnée. Donc, la tendance du droit est de demander une vraie proportion, mais cette proportion, finalement, elle va tellement loin que exercer la légitime défense, je dirais que c'est... J'ai une anecdote personnelle. En 1987, j'enseignais à l'université de Sao Paulo, au Brésil, et la situation était... C'était pas drôle. Hein. Quand j'étais arrivé au Brésil, tout le monde m'avait dit « Quand on rentre du Brésil, tous les gens dans l'avion pour Paris ont été agressés. » J'avais rigolé. Moi, pendant mon séjour, j'étais agressé quatre fois. Mais j'ai été agressé un jour, en étant en plus coincé, hein, sans aucune possibilité de m'échapper. J'ai été agressé par une bande de gamins, d'ados, un peu de votre âge, hein, qui en voulaient à mes propriétés. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit, je me suis défendu. Ce qu'on m'avait dit, il ne faut jamais se défendre parce que tu risques de te prendre un coup de couteau et de mourir. Et une des choses qui, dans la bagarre, j'étais plus jeune que maintenant, hein, qui dans la bagarre m'a retenu, c'est que je ne voulais pas tuer un de ces gamins. Je ne voulais pas. J'étais en légitime défense, mais j'ai préféré à la limite qu'ils me volent plutôt que d'estourbir un gamin de 14 ans Ce qui se trouve, c'était un jour où il pleuvait, et j'avais un parapluie télescopique qui était une vraie matraque. J'avais une arme dangereuse, d'une certaine manière. Je me souviens très très bien de la situation, parce qu'elle ne m'a pas plu. Le lendemain, j'étais tout bleu. J'étais tout bleu le lendemain, comme après un match de rugby. Bleu de cou. Mais sur le moment, j'étais très embêté en me disant, je peux me défendre, mais pas quand même jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie de tuer un gamin. Donc légitime défense, sous condition. L'usage légal de la force. Quand on dit aux policiers chargés, ou qu'on leur dit arrêtez le délinquant, ou qu'on leur dit mettez en état de nuire le forcené. Mais là encore, ce qu'on demande aujourd'hui de plus en plus, que les juges demandent, c'est la proportion. C'est la proportion. Quand il y a des manifestations aujourd'hui, il y a des niveaux d'affrontement qui sont assez élevés, mais qui font peu de dégâts. Peu de dégâts. Alors, comme vous n'êtes pas habitué aux dégâts du passé, vous trouvez que c'est très violent quand les CRS vous tapent un peu sur la tête. Dites-vous bien qu'il y a encore, dans les années 1950, ou même en 1960, pendant la guerre d'Algérie, il y avait des morts dans les manifestations, parce que quand les gardes mobiles chargeaient, ils chargeaient avec des mousquetons, et les crosses de mousquetons, c'est pas des matraques en caoutchouc. Je veux dire, ils cassaient la tête des gens, littéralement. Et il n'y avait pas de proportionnalité là. Et puis il y a un dernier cas qui est très intéressant, parce qu'il est très très important, où la violence est légitime, c'est la chirurgie. Ça, il faut que vous y pensiez. C'est que la violence chirurgicale, c'est une violence à laquelle vous acceptez de vous soumettre quand vous allez accepter d'être soigné. Mais la chirurgie est normalement un acte de violence. Au sens propre, c'est un acte de violence. On vous ouvre, on vous découpe, on vous enlève un morceau éventuellement. C'est un acte de violence. Et c'est pour ça que quand maintenant vous faites l'objet d'une opération, avant c'était pas le cas, mais on vous fait signer plein de papiers comme quoi vous acceptez l'opération, ses modalités, les choses comme ça, parce que effectivement la chirurgie est une violence. Il y a certaines sectes qui n'acceptent pas du tout la violence chirurgicale. On dit ça dans le général des témoins de Jéhovah, qui refusent des interventions chirurgicales, même en cas grave. Mais ça, c'est pour la légitimité juridique. En gros, il y en a très très peu de légitimité juridique de la violence. Maintenant, la légitimité éthique. Alors, éthique, c'est quoi? C'est les règles du comment se conduire. Comment se conduire? Comment se conduire dans une situation? L'éthique répond, en gros, à ces questions-là. Alors, je dirais que vous avez trois perspectives, c'est-à-dire les normes sociales. Les normes sociales, il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce que l'on accepte, et là, il y aura une légitimité éthique dans les normes sociales. C'est pour ça que, par exemple, dans les procès, par exemple, il y aura des circonstances atténuantes qui seront accordées à certains meurtriers, par exemple, parce que, par rapport aux normes sociales, ils ont commis un crime, mais en même temps, par rapport aux normes sociales, il y a une certaine acceptation. J'en prends un exemple parce que moi, il me choque beaucoup. C'est si vous tuez votre voisin parce qu'il vous empoisonne la vie, vous allez être condamné assez sévèrement. Si vous tuez quelqu'un parce que vous conduisez comme un loufoque, que vous êtes un peu chargé et que vous savez à peine conduire, vous allez avoir 2 ans de prison avec sursis, point à la ligne. Et pourtant, vous avez tué quelqu'un et vous êtes un criminel pareil. Quelqu'un qui se met au volant avec 3 grammes d'alcool dans le sang, c'est un criminel. Non. Bon, la norme sociale fait qu'on accepte qu'il y ait des criminels alcooliques. On les châtie pas trop. On accepte qu'il y ait des criminels, des gens qui ont trop fumé, et puis ils prennent leur voiture, ils ne voient pas les feux rouges, etc. Ils écrasent une mère de famille et c'est des marmots. Bon, ils n'ont pas grand-chose. S'ils font ça, en revanche, en braquant une banque, ils vont la sentir passer. Donc, la norme sociale. Et la norme sociale, elle compte. Ensuite, vous avez la morale. Ça, c'est différent. La morale, c'est la morale que vous avez, vous, ou la morale que vous impose votre religion, que vous commande votre religion, par exemple. La morale personnelle aussi, que vous avez pu vous fabriquer, quand vous avez décidé d'adopter une certaine ligne de conduite. Par exemple, si vous êtes chrétien, normalement, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à votre prochain. Hein, même si vous avez, il faut que vous, non pas, pas forcément tendre l'autre joue, mais vous n'avez pas à vous en prendre à votre... Il y a un écrivain chrétien de la fin du 19e siècle, Léon Blois, c'est à l'époque les gens s'insultaient beaucoup dans les journaux et ensuite ils se provoquaient en duel. Et Léon Blois, qui était très chrétien, quand on lui disait, comme il insultait beaucoup les gens. Il était un bon insulteur dans les journaux. Et quand il était provoqué en duel, il répondait « Ma religion m'interdit le duel, mais pas le coup de pied au cul. Hein ». Donc voilà, il disait aux gens « Je peux vous botter le cul, mais je peux pas me battre en duel avec vous parce que ma religion m'interdit de vous tuer. Voilà. » Et puis les affaires de valeur, alors là, c'est plus difficile, mais on en reparlera peut-être. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme justification éthique de la violence? Je dirais, premièrement, la révolte contre ce qui est insupportable, ce qui est absolument insupportable, ce qui est absolument inhumain, ce qui est absolument... ce qui détruit notre humanité. Hein, la révolte contre l'insupportable. La révolte des gens qui sont acculés parce que on nie totalement... c'est la violence du désespoir, hein, en quelque sorte. On nie votre dignité, on nie votre humanité. Eh bien là, je crois qu'il y a effectivement il y a un droit à la violence. Il y a une légitimité de la violence. Le seul problème, c'est qu'il faut définir vraiment l'insupportable. Il faut être assez clair. Si quelqu'un vous insulte, même en mettant en cause... l'honneur de votre sœur, bon, je veux dire, je ne suis pas sûr que ce soit une atteinte absolument insupportable à votre dignité et une négation totale de votre dignité. Mais, je veux dire, il y a certains cas où la négation de votre humanité, effectivement, légitime la violence. Il y a la violence pour rétablir la justice, mais ça s'apparente aussi à la colère. Pas la violence de la justice, hein. Je dis pas la violence des juges, je dis la violence pour rétablir la justice. Il y a eu une injustice qui a été commise, il faut absolument renverser la situation, et ça peut être aussi une excuse à la violence. Peut-être pas une manière de la légitimer, mais une excuse de la violence. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les violences des guerres de libération, les violences des insurrections sauvages. Lorsque les gens sont totalement bafoués dans leur dignité. Le seul problème, et je m'achemine vers ma conclusion, le seul problème, c'est qu'il y a un risque. Il y a un très gros risque dans ces formes de violence justifiées. C'est que, à quel moment on est dans la colère pure, la colère expressive, l'injustice, le sentiment de l'injustice, et à partir de quand on devient instrumental? À partir de quand, pour rétablir la justice, on va soi-même se mettre à commettre l'injustice. Parce que une chose qui est très frappante, par exemple, dans les révolutions. Les révolutions ont commencé très souvent par des révoltes naturelles de gens qui étaient à bout, qui avaient été niés et qui s'insurgeaient. Et puis on s'aperçoit que quelques temps après, ces gens qui étaient à bout, ils ont transformé leur révolte en une sorte de machine terroriste implacable, et qu'à ce moment-là, ils sont du même côté, ils sont revenus du même côté que ceux contre lesquels ils s'insurgeaient. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque, quand vous avez une violence pure, qu'elle devienne impure, c'est-à-dire qu'elle devienne instrumentale et qu'elle bascule à ce moment-là dans la violence que vous dénonciez. Vous dénonciez la violence mécanique, froide, injuste, et puis vous-même, vous le devenez. Et je pense que, effectivement, il y a très peu de cas où la violence est absolument pure. Il y a très peu de cas où la violence est absolument pure. Avant, je dirais, d'exploser de violence, ce n'est pas les bonnes conditions pour réfléchir, mais il faut toujours se demander si on ne risque pas, finalement, de retomber dans ce qu'on dénonce. Bon, je crois que là, j'ai terminé. Voilà. C'est ça. Hein? Et donc, maintenant, je vous ai livré plein de réflexions et j'attends vos réactions à vous.